Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous sommes à Nantes. Dès le début de ce journal, on en est à 26 fusillades depuis le début de l'année dans la métropole nantaise sur fond de trafic de drogue. La dernière en date, hier soir, un adolescent de 15 ans tué par balle dans un hall d'immeuble. Dans ce contexte, vous allez voir que les biscuits ou les bonbons à base de CBD deviennent interdits à la vente à partir de ce matin. Et on reviendra aussi, bien sûr, sur la liste des Bleus pour la Coupe du Monde de football qui commencera le mois prochain. C'est quoi le programme maintenant pour les Bleus? Vous allez voir qu'ils vont se réunir, mais alors à la dernière minute.
La ville de Nantes est endeuillée ce matin.
C'est la maire de la ville, Johanna Roland, qui le dit au lendemain donc de cette nouvelle fusillade sur fond de narcotrafic survenue hier soir, la 26e depuis le début de l'année dans la métropole. Cette fois, c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué par balle. Un autre de 13 ans est entre la vie et la mort. Ça s'est passé dans le quartier Port-Boyer. C'est d'ailleurs la deuxième fois en moins d'un mois, Lucas Laubert, que ce quartier est endeuillé par une fusillade.
Oui, dans le quartier, la stupéfaction règne. À bord d'une voiture, la mère d'une des victimes crie son désespoir. Paola, elle, est la tante de l'adolescent de 15 ans décédé. Elle est désemparée.
C'est la consternation, on est sous le choc de tel drame. En fait, on en a marre, on ne veut plus, on vit dans la peur. C'était juste assis, en train de parler, de rigoler, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, voilà.
Et c'est alors que des tireurs ouvrent le feu dans le hall de l'immeuble, tuant son neveu. Deux autres jeunes sont blessés. L'un d'eux est poursuivi jusqu'au 13e étage par les tireurs avant qu'ils ne prennent la fuite. Un probable règlement de compte sur fond de narcotrafic, selon le procureur de Nantes. Un drame absolu, se désole la maire de la ville, Johanna Roland.
Des règlements de compte qui tuent des adolescents dans des quartiers. Un narcotrafic qui gangrène le pays. Oui, la mobilisation doit être absolument totale.
Il y a quelques semaines déjà, une autre fusillade avait endeuillé le quartier, faisant un mort et un blessé grave.
Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sera sur place à Nantes. Ce matin, il va arriver à 9h30 environ, un peu plus tôt dans la semaine. Vous vous souvenez que c'est à Nice qu'une fusillade avait fait 2 morts et 6 blessés. Ça s'était passé dans le quartier des Moulins. D'ailleurs, 4 suspects, dont le tireur présumé, sont en garde à vue depuis hier. Alors, on l'a appris cette nuit, la Marine nationale a annoncé cette très grosse saisie de 3,2 tonnes de cocaïne à bord d'un bateau de pêche dans l'océan Atlantique. Alors c'est dans ce contexte que les règles changent ce matin dans les magasins qui vendent du CBD. CBD étant le cannabis mais sans le THC, c'est légal, je le précise, en France, c'est autorisé depuis des années. Louis Salé pour RMC en direct ce matin. C'est lié donc à une réglementation européenne. Tous les produits alimentaires à base de CBD deviennent interdits à la vente. Concrètement, on parle de quoi?
Alors on parle des tisanes, des huiles, des bonbons qu'on appelle souvent des gummies et des compléments alimentaires aussi. Ils sont vendus dans les magasins spécialisés ou en pharmacie et c'est 40% du chiffre d'affaires de la filière. Ces produits n'ont jamais été officiellement autorisés par l'Union européenne. Jusqu'ici, l'État français fermait les yeux, mais il y a un mois, le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'il fallait les retirer de la vente. Frédéric est responsable d'une boutique de CBD. Il est sidéré.
Toutes ces petites huiles qui vont être alimentaires vont être interdites, les bonbons, les infusions aussi. C'est pratiquement 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme. Et des clients français ou européens vont aller se procurer ce genre de produit à l'étranger. Il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas. Même eux, ils ont du mal à comprendre.
Difficile de savoir si le ministère interdit aussi ces produits pour des raisons sanitaires. Il n'a pas répondu à nos sollicitations. Le CBD n'est pas nocif pour la santé, mais il contient une petite dose de THC. Si cette dose dépasse le seuil légal de 0,3%, alors on peut ressentir les mêmes effets psychotropes que le cannabis. Selon l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, ce seuil n'est pas toujours respecté dans les produits à base de CBD. On y retrouve aussi parfois des cannabinoïdes de synthèse, des molécules interdites qui reproduisent chimiquement les effets du cannabis.
Louis Salé, on va réagir ce matin avec vous au 32-16 sur ce débat-là. Faut-il interdire tous ces produits alimentaires à base de CBD? Ce qui se fume reste autorisé. Hein.
Absolument.
Louis Salé, mais les bonbons, les gâteaux, les tisanes, vous en consommez, vous les vendez peut-être. Appelez-nous au 32-16, vous serez en direct avec nous.
De la tension en Lozère, où autorités et agriculteurs aussi redoutent l'installation d'une rave party dans le département avec des teufeurs en plein débat parlementaire pour créer un nouveau délit jusqu'à 1500 personnes recensées sur place d'après la préfecture dans une zone de moyenne montagne où en plus de tout ça, le temps doit être mauvais ce week-end. C'est une inquiétude sur place car c'est quand même l'info de ce pont de l'Ascension avec une météo pourrie et même de la neige qui tient en montagne à tel point que certains vont rechausser les skis ce week-end à Lou Garnier.
Il est tombé 25 cm de neige hier dans la station de l'Alpe d'Huez. Romagny est monitrice de ski, alors elle et ses élèves en profitent.
Elle est bonne, c'est de la neige fraîche. C'est facile à skier, on se régale. De la neige comme en plein hiver, quoi. Ça fait toujours plaisir.
Dans sa station, il devrait neiger jusqu'au début de semaine prochaine. Et avec le froid annoncé, elle espère que la neige tienne.
On est content parce qu'on sait que les prochains week-ends, on va pouvoir s'entraîner sans se poser de questions de si les cailloux vont ressortir, si on va abîmer les skis. Tout est là pour le plaisir.
Même engouement du côté d'Aladji. Il vit en bas de la station de Sixfer à cheval en Haute-Savoie. Il voit la neige tomber depuis sa fenêtre. Pas commun pour un week-end de l'ascension, selon lui.
Un peu plus en altitude, je pense, ça a bien neigé 15-20 cm, parce que ça a vraiment bien blanchi. C'est pas souvent, ça arrive quand même plus en avril. Là, ça continue encore en mai, c'est étonnant, ça change.
Alors le programme de son week-end est tout trouvé.
Ouais, peut-être se motiver à monter en raquette et sortir le snow et faire une descente si on peut, pour retoucher la neige peut-être la dernière fois de la saison.
D'autant plus, il l'ajoute, qu'il n'y a pas grand monde sur les pistes à cette époque-là de l'année.
Je vous signale que ce vendredi est une journée de deuil national en Ukraine. Il a été décrété après une attaque russe qui a fait 24 morts. C'est un nouveau bilan ce matin dans la capitale Kiev. Les Russes, eux, disent que cette nuit, des frappes ukrainiennes ont fait 3 morts au sud de Moscou. Et c'est dans ce contexte aussi que le trafic aérien a été suspendu pendant 3 heures. La tôt ce matin en Finlande à l'aéroport d'Helsinki en raison d'une nouvelle alerte aux drones. Autre info du matin, le sommet Chine-États-Unis qui s'est terminé là cette nuit à Pékin. Xi Jinping a demandé la réouverture du détroit d'Hormuz à Donald Trump qui lui s'est vanté d'avoir signé des accords commerciaux fantastiques. Ce sont les mots, le jargon habituel du président américain.
Alors, puisqu'on parle des États-Unis, on connaît depuis hier soir les noms des 26 joueurs qui s'envoleront pour la Coupe du Monde de foot en Amérique.
Avec 3 surprises, le gardien Risser, le défenseur Lacroix et l'attaquant Mateta, tous les 3 retenus. Il y a des absences notables. Je pense au gardien Chevalier, au milieu Camavinga, Tolisso, aux attaquants aussi, Tovin, Colomwani. Il n'y a aucun Marseillais dans cette liste de Didier Deschamps. C'était plus arrivé depuis 1980. On est donc à moins d'un mois maintenant de la Coupe du Monde. Nicolas Pelletier, vous faites partie, vous êtes une des 40 personnes sur place pour RMC, dispositif énorme. C'est quoi le programme là pour les Bleus? Quand est-ce que ça commence vraiment?
Les 26 Bleus convoqués vont donc désormais terminer leur championnat respectif. Puis ils sont attendus le 29 mai à Clairefontaine où ils devraient arriver au compte-gouttes. 6 joueurs, notamment ceux de l'effectif du PSG, sont concernés par la finale de la Ligue des Champions. Ils ne rejoindront le groupe que le 1er juin. Derrière, l'enchaînement sera très rapide pour les Bleus. 2 matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire le 4 juin à Nantes avant de défier l'Irlande du Nord à Lille le 8. Les hommes de Didier Deschamps décolleront pour Boston le 10 juin, le temps de s'adapter à l'air américain et de prendre en compte le décalage horaire. 6 jours pour se mettre en jambe avant le grand moment très attendu, le premier match du Mondial contre le Sénégal prévu le 16 juin à New York. Et élément important, surtout dans une préparation en cas de blessure, le règlement est clair. Didier Deschamps a jusqu'au 15 juin pour effectuer un changement dans le groupe France.
Voilà, au stade de New York, ce premier match de l'équipe de France sera juste à côté du studio de RMC, d'ailleurs, radio officielle de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé a dit aux supporters hier soir qu'il espérait les rendre fiers. Il a rejoué hier, Kylian Mbappé, avec le Real Madrid. Real qui a gagné 2-0 contre Oviedo, mais tout ça est anecdotique. Mbappé avait loupé les 2 derniers matchs. Il avait fait parler de lui pour une virée en Sardaigne. Ça lui a d'ailleurs valu cette bronca. Écoutez, les sifflets du public à Madrid. Alors, il a quand même précisé que cette virée avait été autorisée par le club. Il a réglé ses comptes avec tout le monde. Mbappé, c'était un peu surréaliste là hier soir en partant même au clash avec son entraîneur qu'il avait mis sur le banc de touche.
Merci Quentin Vinet, il sera plus applaudi par les supporters des Bleus cet été, Kylian Mbappé.
On espère, ouais.
Perspective le 11 juin, c'est sûr. Vous avez vu cette attaque? Mine de rien, Nicolas Pelletier, on a une attaque qui doit faire trembler le monde entier, là, non?
Exceptionnel. Tout le monde tremble.
Attaque.
La dernière fois qu'on a dit ça.
Pour faire plaisir.
La dernière fois qu'on a dit ça, c'était à l'Euro, hein. Vous vous souvenez? Griezmann, Mbappé,
oui,
Benzema.
Oui. Avant ça, on a fait une finale de Coupe du Monde et on a gagné celle d'avant. Qu'est-ce qu'il vous faut quand on vient? Cette génération d'enfants gâtés. Ils savent pas ce que c'est. La dernière Coupe du Monde aux États-Unis, on n'était même pas qualifiés. On y va. On
94, ouais, ça.
Allez, on a les 26, ça vous fait réagir. Vous continuez au 32-16, évidemment. C'était le journal de Quentin Vinet. Merci, mon cher Quentin. Et je vous signale juste, au passage, la sortie du 4e épisode de la nouvelle voix de l'After à 18h ce vendredi sur la chaîne YouTube de l'After Foot. 5 nouveaux candidats qui s'affrontent. Ce sera à Bollaert, Lens, pour devenir la nouvelle voix de l'After. Écoutez, c'est le dernier épisode avant la demi-finale.
Toi, pourquoi ce serait toi?
Parce que je pense que je peux apporter quelque chose à cette émission. Tout d'abord, j'adore parler foot, j'adore avoir des avis tranchés, j'adore le clash, j'adore rendre fou les gens et je peux éteindre des joueurs.
Éteindre des joueurs?
Éteindre des joueurs.
Je trouve que ta volonté, là, elle est quand même trop affirmée.
Et presque un peu agressive,
ouais.
J'ai envie de dire. Quand je dis éteindre un joueur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des prestations qui sont pas à la portée de l'ambition, qui sont pas les moyens investis sur ce joueur, t'as besoin d'allumer la lumière sur ce joueur. Et pour allumer la lumière, bah, par exemple, faut rappeler des vérités. C'est ça derrière ce que j'entends quand je dis éteindre un joueur.
On aurait dû postuler, Quentin, non? On aurait dû y aller. Quatrième épisode de la nouvelle voix de l'After. Rendez-vous à 18h ce soir sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Il est 8h10 sur RMC et RMC Story. Lui aussi, il aurait pu postuler. On va parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
La construction de logements neufs était censée repartir, Emmanuel Lechypre. Elle s'enfonce dans la crise.
Ouais. Je rappelle que j'étais au Parc des Princes quand on a perdu contre la Bulgarie la dernière minute.
Au passage, 93.
Je regrette que vous m'ayez rappelé ce mauvais souvenir.
Le trauma.
Voilà. Et je n'ai pas de meilleures nouvelles non plus.
Vous n'allez pas aux États-Unis, Manu?
Non, j'y vais pas.
Non, ouais, non s'il vous plaît.
Pas de chat noir, pas de chat noir. Et c'est pas mieux. Et c'est pas mieux. J'ai pas de bonnes nouvelles du côté de la construction de logements. Les résultats du premier trimestre que vient de publier la Fédération des promoteurs immobiliers sont tout simplement catastrophiques. Les mises en vente ont chuté de 19% par rapport au premier trimestre 2025, qui était déjà pas très reluisant. Jamais elles n'ont été aussi peu nombreuses sur un trimestre. Le retrait d'opérations immobilières, c'est-à-dire la part des logements qu'on retire de la commercialisation parce qu'on trouve pas de clients, eh bien ce nombre est reparti à la hausse pour le quatrième trimestre consécutif. C'est 24% désormais, un logement sur quatre qui est retiré de la vente, faute de demande de la part des particuliers et encore plus de la part des bailleurs sociaux.
Et pourtant, on peut pas dire que le gouvernement ne fait rien.
Bah, il faut reconnaître que les professionnels de l'immobilier s'étaient bien battus face au gouvernement qui se sont succédés depuis la dissolution pour obtenir finalement du soutien. Il y avait ce statut du bailleur privé dans le budget 2026 qui était censé relancer l'investissement locatif. Il y a le projet de loi de relance du logement, mais tout ça pèse peu face à la guerre en Iran, au retour de l'inflation synonyme de hausse des taux d'intérêt, face au changement permanent de réglementation, l'interdiction des chaudières à gaz par exemple, qui va renchérir le coût des constructions, et puis il y a la perspective de la présidentielle qui crée un attentisme qui n'est jamais favorable au marché de l'immobilier. Le résultat, c'est que le secteur perd 250 emplois par jour, l'équivalent d'une usine qui ferme chaque jour dans le secteur de la construction.
Alors les chiffres du jour, on revient sur le terrain, vous les avez évoqués, mais on revient sur le terrain des énergies.
Mais oui, des bonnes nouvelles pour le gazole. 2,13 € le litre. On est à moins 3 centimes sur une semaine. On n'avait pas vu des prix aussi bas depuis la fin mars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, sur le sans-plomb 95, hein, on est stable. On reste au-dessus de la barre des 2 €. Le pétrole tendu toujours. Hein, 106 dollars, le baril. On est au-delà de la barre des 105 depuis le début de la semaine. Et puis sur le gaz, ça se tend un petit peu. 47,50 € le mégawattheure, c'est le plus haut depuis 2 semaines.
Bon, on retiendra que le gazole est au plus bas depuis la fin du mois de mars.
Absolument.
On prend ce qu'il y a à prendre. On fait comme ça, il est 8h13 sur RMC et RMC Story. Dans un instant,
votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, au micro de Marie Chantrey. Et puis juste après, la semaine face à Conteloup à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour.
Bonjour Arnaud Demange.
Bonjour Mathieu Béliard.
Ça va bien et vous?
Pas mal.
Bonjour Élise Dangean.
Mais,
belle énergie. Arnaud.
Bonjour Anthony Kazmarek. Bonjour, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Oui, oui, anniversaire Anthony.
Déjà 44 ans. Ouais. À quel point ça pousse. Toujours aussi heureux de vous retrouver en ce vendredi du pont de l'Ascension. On salue aussi les 6 auditeurs qui nous écoutent pendant que le million habituel fait la grasse mat. On n'est pas bien là tous les 10, hein, franchement. C'est cool. Alors, comme c'est une journée pas hyper importante, eh ben, c'est l'occasion de parler des sujets sans intérêt. Et vous allez voir comme ça tombe bien.
Oula.
Florian Philippot, le président des Patriotes, a annoncé être candidat à l'Élysée. Donc, Nicolas Dupont-Aignan voit débarquer un rival sur le marché des complotistes pro-russes et anti-vax. Et ils vont se battre tous les deux pour 1% des voix. Quel match! En football, ça s'appellerait le patético.
Vous avez raison, c'est une info du jour.
Ah ouais, c'est une info. Alors là, fin de semaine, fin de week-end. Alors, petit conseil pour Florian Philippot, n'imprime pas des affiches tout de suite, mon grand. À la dernière présidentielle, il avait reçu un seul parrainage. Voilà. Un. Et je pense d'ailleurs que c'était une erreur ou une arnaque, genre,
Et vous êtes sûr, vous êtes Édouard Philippot, l'ancien Premier ministre?
Ouais, mais signez-la, monsieur le maire. Aux européennes, il avait été battu par le parti animaliste. Il avait été battu par une affiche où il y a un chat. Sur la prochaine, il pourrait se déguiser en chien avec un collier et une babale au pied de Poutine. Ça lui irait bien. Alors, sur le site des Patriotes, on peut acheter des badges pour payer sa campagne. Et à votre avis, est-ce qu'on peut, oui ou non, acheter ce badge sur le site de Florent Philippot? Vous êtes prêts?
Allez.
Le badge, je ne me reconfinerai pas.
Je suis sûr que oui.
Oui. Le badge, j'aime la vie.
Non. Non.
Oui, oui, bien sûr. Non à la Troisième Guerre mondiale.
Oui.
Mon grille-pain est un espion, non aux objets connectés.
Oui, oui.
Non, malheureusement, non.
Mais vous savez pas, il va
prochaine collection. Sauvons nos vaches.
Non.
T'as un badge, sauvons nos vaches. Je suis un lion, pas un mouton. Alors il y a une référence à PNL, on est d'accord. Mais il y est. Le badge, je ne suis pas un rhinocéros. Alors oui.
Non plus.
Il y est.
Carnaval des animaux.
Le badge, et pourtant elle est plate.
Non,
il n'a pas osé quand même. Ce sera l'an prochain.
Ouais,
l'an prochain.
Ça arrive. Alors selon le Figaro, le chanteur Vianney aurait acquis 80% du 43e étage de la tour Montparnasse.
Escroc.
C'est drôle d'info, ça.
Escroc. Saligo. Ah, il s'est bien foutu de notre gueule avec sa cabane en rondin. J'étais à ça de lui acheter son album pour qu'il puisse s'offrir des couvertures pour avoir un endroit chaud l'hiver. Et en fait, non, il vit au meilleur endroit de Paris. Si, c'est le meilleur endroit de Paris. Enfin, je veux dire, moi, je suis comme tous les Parisiens, la tour Montparnasse. Je suis pas fan, mais c'est vrai que quand t'habites dedans, bah, tu la vois plus, la tour Montparnasse. C'est malin. Non, je pense qu'en fait, il s'est rendu compte que autant construire une cabane en bois, c'est sympa, autant vivre dedans, c'est pas dingue. Il a dormi deux nuits. Mais en fait, là-dedans, on gèle. La nature, ça va deux minutes. Allez, je me prends un jacuzzi avec deux Ukrainiennes en string. Ça m'en changera des castors avec qui je mangeais du lichen. Je me suis acheté un Hummer. Demain, je pars en safari et je vais sniffer de la coke en tirant dans des éléphants. Non, mais quand même, quoi.
Bon, demain soir, c'est la finale de l'Euro.
Oui, l'Eurovision, donc ce concours étonnant, hein, on dirait un concours de patinage artistique, mais sans les patins, c'est très bizarre. Une Eurovision très politique.
Ah, vous dites une, vous?
Oui, ou un Eurovision, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est très politique, parce qu'avant, bon, on regardait surtout pour se moquer, vous voyez, c'était la kermesse de fin d'année, on rigolait parce qu'il y avait des bosniaques moustachus avec des coupes au bol qui s'éclataient sur de la techno minimale, et après, il y avait une chanteuse lyrique moldave qui faisait de la harpe laser dans des fumées violettes. Des cosmonautes recouverts de papier d'alu qui descendaient du plafond. Mais là, c'est une Eurovision un peu spéciale, ouais, puisque l'Espagne, la Slovénie et l'Irlande boycottent le concours à cause de la présence d'Israël. Les Insoumis aussi ont appelé au boycott, voire à l'escalade. Ils ont dit, si Israël envoie un chanteur de l'Eurovision, on doit répliquer, on doit organiser un Tel Aviv, un concert avec trois cafés gourmands, montrer qu'on se laisse pas faire, et rajouter Francis Lalanne et Patrick Sébastien. Ça va se finir au tribunal pénal international. La France sera représentée par la jeune Monroe et sa chanson Regarde. Très lyrique. Et tiens, là on fait un deuxième quiz, c'est un vrai quiz. Attention, main sur le buzzer, on joue. Est-ce que cette chanson a représenté la France à l'Eurovision?
C'est parti.
On se détend, c'est parti. Est-ce que la France a été représentée par Moi je voulais une moustache?
Oui.
Ah oui.
On écoute. Moi je voulais une moustache. Eh oui, vous avez raison.
Stéphane, ici, fais gaffe.
Annie aime les sucettes à l'anis.
Bah oui.
Artus aime les sucettes à l'anis aussi.
Non.
Est-ce que la France a été représentée par cette chanson? Elles sont fritas,
les bananas.
On aurait peut-être pu. Gérard Lenormand a-t-il représenté la France?
Oui,
avec ça.
Ah, mais oui, c'est vrai.
Mais oui. Ça date, hein. Est-ce que la Belgique a été représentée par cette chanson?
Oui.
Xavier Dupont de Ligonnès a participé avec la chanson N'avoue jamais.
N'avoue jamais.
Donc c'est une vraie chanson de Guy Marnel.
Est-ce
que la France a été représentée par cette chanson?
Bah oui.
Quasiment, la France a a été représenté par Macron qui chante la bohème en harmonie. Il aurait été capable de faire l'Eurovision. Il faut tout faire soi-même dans ce pays, vous êtes nuls. Vous arrivez toujours dernier, je vais m'en occuper. Mal aidé, je ne suis pas aidé. Allez, bonne Eurovision.
On y croit ou pas?
Bon week-end.
Arnaud.
Je pense
d'ordinaire, la veille, on dit oui, on peut faire
oui,
un bon score.
Entre dernier et avant-dernier, je pense qu'on peut viser ça, comme d'habitude.
Il n'y a pas de cœur.
Et puis, on a un message sur le WhatsApp d'un de nos 10 auditeurs, je ne sais plus combien t'en as compté, qui nous dit on est bien, t'inquiète, merci Arnaud.
Oh, bon, on l'embrasse.
Ils sont là, évidemment.
Vous savez,
les jours fériés,
il est là.
Les jours fériés, on parle à moins de monde, mais ceux qui nous écoutent, ils ont vraiment besoin de nous.
On privilégie la qualité à la quantité.
Voilà, c'est pour vous ce matin. Et Olivier fait partie de ce pack qualité du pont RMC dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas comment vous présenter. Salut Olivier.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC, mon cher Olivier. Vous avez suivi l'annonce des 26 sélectionnés pour la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada, Mexique. Vous êtes content?
Oui, dans l'ensemble, je trouve que Didier Deschamps a fait une bonne sélection, même si c'est pas toujours facile à sa place de choisir les uns au détriment des autres. Bon, le seul hic, étant cadetien, mon club de cœur, c'est Lens. Bon, je suis content pour le gardien de but, le troisième gardien de but.
Vous regrettez Thauvin?
Mais je suis déçu pour Thauvin parce que je pense que c'était sa dernière. Il aurait tout donné. Il a fait une belle année de championnat et ça aurait été un super joker. Donc pas titulaire tout le temps, mais ça aurait été un super joker pour l'équipe de France.
Voilà. Ouais, mais c'est concurrentiel l'attaque. Hein. Vous avez vu Olivier, l'attaque des Bleus, c'est vrai qu'elle fait peur. On en parlait avec Nicolas Pelletier, mais vous, évidemment, le Lensois que vous êtes, le Nordiste que vous êtes, critique. Regrette l'absence de Florian Thauvin. Champion du monde, d'ailleurs, 2018, Thauvin, non?
Tout à fait, oui.
Oui, on est d'accord. Merci, Olivier.
Je vous en prie,
on continue d'en parler, d'ailleurs, sur RMC toute la journée. Vous ne manquerez rien, de toute façon, jusqu'à la finale. Hein, au mois de juillet, vous rentrez dans un mode Coupe du Monde. Vous savez que vous êtes ici, chez vous, les fans de foot, et que vous ne manquerez rien. J'ai vu passer un 35 heures sur 24.
Parce que
ça fait rire Arnaud, mais parce qu'on a des web radios spécialisées,
les radios dédiées.
On produit des, en 24 heures, vous n'avez pas le temps d'écouter tout ce qu'on va vous proposer sur la Coupe du Monde, la Dream Team RMC Sport avec 4 champions du monde, nos 40 envoyés spéciaux aux États-Unis, Canada, Mexique. Bref, vous êtes sur RMC, vous avez fait le bon choix. Il est 8h23. Et dans un instant, le face-à-face, Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme sur RMC et BFM TV, 8h24.
Merci d'écouter RMC, il est 8h25. Le rappel des titres avec Clément Gouiz.
On connaît les 26 bleus pour conquérir le mondial. Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier soir des absents. Camavinga, Chevalier, Kolo Muani. Des petites surprises, le gardien Lensois Risser, Jean-Pierre Philippe Mateta et Maxence Lacroix. Début du mondial le 11 juin prochain. Nantes secouée par une nouvelle fusillade, la 26e depuis le début de l'année. Un adolescent tué hier soir, 2 autres blessés, dont un grièvement. Un règlement de compte sur fond de narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, attendu sur place ce matin. Un dernier hommage rendu aujourd'hui à Chloé, cette collégienne tuée de plusieurs coups de couteau la semaine dernière à Fère en Tardenois dans l'Aisne. Ses obsèques se dérouleront à 14h. Le suspect a été mis en examen pour assassinat et viol. La météo a encore un temps bien perturbé entre le sud-ouest et les régions de l'Est. Ciel très nuageux près de la Méditerranée. Côté température de 0 à 13 degrés. Et cet après-midi, il fera de 11 à 20 degrés. 11 à Langres, 16 à Bordeaux et 20 à Nice.
C'était le rappel des titres de Clément Gouiz. Merci Clément. Dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV. Marie Chantrey reçoit Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, membre de la Commission des Finances.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy.
Bonjour Madame Chantrey, merci de votre invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, député RN de la Somme et membre de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale. En direct encore ces images de l'avion Air Force One du président américain Donald Trump qui repart d'un sommet de 2 jours exceptionnel à Pékin. On reviendra sur ses conséquences éventuelles, ce blocus du détroit d'Ormuz et Pékin qui le redit, la réouverture dès que possible. Est-ce que cela peut avoir des conséquences, on le souhaite en tout cas en France, sur les prix du carburant, on verra ça en longueur avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, cette information de la nuit qui marque les esprits, qui les choque également. Un adolescent à Nantes de 15 ans a été tué hier soir. 2 autres mineurs ont été blessés, l'un est entre la vie et la mort. Dans un quartier déjà touché d'ailleurs par des tirs mortels sur fond de narcotrafic. Depuis le début de la semaine, Jean-Philippe Tanguy, on est à six victimes sur tout le territoire liées au narcotrafic. L'État est-il dépassé ?
Oui, de toute évidence, malheureusement, le gouvernement est dépassé avec des communications qui allaient à l'inverse. On se souvient des opérations de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, reprises par son successeur.
Les opérations Placenet, à l'époque.
Exactement, cette application Placenet. Déjà à l'époque, on disait, écoutez, toute opération est bienvenue, mais quel sera le lendemain de ces opérations? Quel sera le suivi pour la sécurité des habitants, des familles, des sécurités, des forces de l'ordre elles-mêmes, qui opèrent dans des conditions, on ne peut plus, difficile, de guérilla urbaine, avec effectivement ces fusillades et ces morts insupportables pour les familles, pour les proches. Parfois, il y a des personnes victimes qui n'ont strictement rien à voir avec le narcotrafic.
Ça a été le cas visiblement à Nice, cette semaine.
Et même quand ça a à voir avec le narcotrafic, personne ne mérite de mourir sur des balles, même si vous êtes lié directement ou indirectement à un narcotrafic, évidemment. Donc, le dépassement de l'État est réel, et il y a malheureusement une banalisation de la violence, parce que vous disiez à juste titre, Madame Chantré, le nombre de morts, donc 6 morts qu'il y a eu sur notre territoire.
Juste le début, oui, de cette semaine. Laurent Nunez.
Je pense qu'il y a 10 ans encore, ça aurait donné lieu, chaque mort aurait donné lieu à un scandale national, et que maintenant, 6 morts semblent être malheureusement une dépêche de presse, comme s'il y avait une banalisation de la violence sur le narcotrafic. Il ne doit jamais y avoir de
on
banalisation
s'en fait l'écho
de la violence
ce matin, et on le commente.
Je parle pas de vous, je parle de la classe politique.
Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, doit se rendre sur place. Une forme d'impuissance des pouvoirs publics, ça vous le déplorez, mais vous êtes aussi, vous, votre parti, candidat à l'élection présidentielle. J'entendais hier Jordan Bardella en déplacement à Beaucaire qui disait « Si les Français nous accordent leur confiance, on rétablira le droit de vivre chez soi en sécurité, sans subir le désordre de la rue ou la contestation de nos valeurs. » Au-delà de ces déclarations d'intention, encore une fois, j'ai envie de vous dire, vous aux manettes, vous au pouvoir, que ferez-vous pour lutter contre le narcotrafic? Question vague, mais en même temps, vous avez voté pour le projet de loi porté à l'époque par Bruno Retailleau, largement voté par vos députés. Et dans les faits, rien ne se passe, ou en tout cas, visiblement, ce phénomène de violence ne fait que s'accentuer.
Oui, alors vous reconnaîtrez qu'à l'époque, nous l'avons voté sans illusion, c'est qu'on ne fait jamais la politique du pire. Il faut noter aussi que ce texte ne serait pas passé sans les voix du Rassemblement National, ce qui veut dire que la majorité elle-même des autres députés, des autres partis politiques, ne sont pas déterminés à lutter contre le narcotrafic. On est le principal parti d'opposition. Mais si vous avez besoin du principal groupe d'opposition dans un gouvernement, le Rassemblement National, pour faire passer un texte de loi qui devrait être consensuel, fondamental, compte tenu de la gravité des faits que vous avez exposés. Le texte devrait passer par consensus. Or, il n'est pas passé par consensus. Il est passé parce que le principal parti d'opposition, le Rassemblement National, avec Marine Le Pen, présidente de groupe, a pris ses responsabilités de soutenir un texte d'un gouvernement auquel nous opposons sur le reste des sujets, par responsabilité.
Sur ces sujets-là, ça veut dire que vous êtes en accord quand même avec la manière dont entreprend le gouvernement, notamment comparant ça à la lutte contre le terrorisme. Là-dessus, vous accordez un point au gouvernement de Sébastien Lecornu?
C'est-à-dire, dans les paroles, des analyses peuvent être faites qui sont bonnes. Une fois plus, on n'est pas dans la politique du pire, mais vous voyez, soutenir un texte d'un gouvernement, ce n'est pas soutenir ce gouvernement. C'est pour ça que parfois c'est risqué de le faire, et que Marine Le Pen est courageuse de soutenir des textes que nous ne soutenons pas, par ailleurs, l'entièreté de cette politique. Mais il faut le dire, moi je comprends qu'en tant que journaliste, vous demandez des mesures précise, ponctuelle. Mais la réalité, c'est que c'est avant tout un état d'esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'état d'esprit dans le gouvernement, dans les partis du centre, dans les partis de gauche, j'en parle même pas malheureusement, pour se battre contre le narcotrafic, prendre la violence qui est liée directement à bras-le-corps, soutenir systématiquement nos forces de l'ordre, mettre en ordre de marche l'appareil judiciaire pour qu'ils soutiennent l'action de ces forces de l'ordre, et qu'il n'y ait pas, des impossibilités de travailler ensemble. Parce que moi, on voit sur le terrain, je le vois dans la Somme, même un département rural comme la Somme est touché par d'autres façons, d'autres formes de narcotrafic.
Parce que c'est ça aussi la nouveauté, ça touche tous les territoires, oui, et ça touche toute la France, plus uniquement les grandes villes, et ça s'étend
au territoire, ça s'étend aussi dans les produits, puisque maintenant il y a aussi des trafics de médicaments utilisés comme des formes de narcoleptiques et de narcotrafic. Donc ça s'étend, et puis disons-le, quand on voit l'âge des victimes, personne blessée, 13 ans. Ça fend le cœur, c'est inacceptable.
Poursuivi
visiblement au 13e étage de son immeuble pour ce règlement de compte, ces voyous, ces barbares. Mais Oui, il faut jamais accepter ça. Voilà. Je sais que la violence désormais des adolescents est de plus en plus précoce, mais ça reste un gamin de 13 ans. Et je crois aussi qu'il y a un combat, évidemment, de civilisation à mener là-dessus. On ne doit pas banaliser le fait que ça touche des enfants. Quand vous êtes à 13 ans, même si vous êtes dans la violence, même si vous êtes dans l'innommable, vous restez un enfant. Et notre société ne doit pas perdre ce fil de défendre l'enfance.
Jean-Philippe Tanguy, avant d'en venir, et on voit encore ces images de cet avion américain en train de quitter Pékin après cette visite du président américain. J'aimerais juste une courte question sur ce phénomène, cette vidéo qui est devenue virale en quelques heures seulement. Un ex-professeur de sport placé en garde à vue, il a même été mis en examen ces dernières heures, placé en détention. Il correspondait avec ce qu'il pensait être une jeune fille de 14 ans, sans doute pour lui attirer ses faveurs. Il s'avérait que derrière cela, c'était une intelligence artificielle, un youtubeur. Le politique que vous êtes dit face à ces pratiques, encourager cela, se faire une forme de justice soi-même, où vous dites ça me met très mal à l'aise. Dit le politique, le député du Rassemblement national que vous êtes face à ce phénomène?
Mais moi je dis heureusement que la société civile est mobilisée par rapport à la pédocriminalité
s'empare de ces sujets.
Parce qu'il y a
quitte à mettre au point ce type de stratagème.
Si vraiment il y a un phénomène inquiétant, odieux, innommable dans notre pays, c'est la pédocriminalité, et les moyens de l'État et la mobilisation de la classe politique est faible, totalement faible. On a vu le scandale à Paris qui a donné lieu à quelques débats polémiques, alors que ça aurait dû être au centre de la campagne municipale, ça aurait dû être au centre.
Il l'a été quand même à certains égards.
Oui, mais je ne trouve pas. Bon, c'est mon opinion. Après, chacun.
Et le maire de Paris a dit en faire sa priorité.
Le maire de Paris, l'administration sortante de la mairie de Paris, oui, très bien, a pu se représenter dans des pantoufles, alors qu'il serait dû être inqualifiable. Il aurait dû être disqualifié.
Mais sur ce cas très précis, juste le politique, encore une fois, encourage.
Il faut montrer la banalité, ce qui est sidérant dans cette affaire. Il faut débusquer la banalité de la pédocriminalité. Ce n'est pas un phénomène malheureusement marginal dans la société française. Vous croisez tous les jours malheureusement des enfants, des familles qui ont été touchés, meurtris par la pédocriminalité, et l'appareil d'État et la société française là-dessus n'est pas encore assez mobilisé pour lutter contre la pédocriminalité.
Donc vous
quand
dites,
on voit le
vous
scandale
dites,
dans l'aide à l'enfance.
Vous dites, si la société civile s'empare de ces sujets, même via ces pratiques-là, c'est une bonne chose. Ça peut participer finalement de la dénonciation, voire de l'arrestation de tels individus.
Une bonne chose, je n'utiliserai pas sans doute cette formule. En tout cas, ça participe à la mobilisation de la société, se rendre compte de la gravité et de la banalité de ce mal, qui est le pire mal possible pour une société. C'est absolument épouvantable. Moi, j'ai grandi quand j'étais dans mon enfance, parallèlement à l'affaire Dutroux. Donc, j'étais une génération mobilisée par cette pédocriminalité. J'ai l'impression qu'on est resté encore il y a 30 ans en arrière sur la mobilisation de la société. Quand on voit l'état de l'aide en l'enfance, c'est quoi l'aide en l'enfance pour ceux qui nous écoutent? C'est les enfants qui sont gérés par l'État à travers
les
départements. La banalité des agressions sexuelles contre ces enfants qui souvent finissent dans la prostitution de rue, la prostitution organisée, le trafic d'êtres humains. Ça devrait révolter toute la classe politique, et c'est traité. Il y a des députés courageux comme chez nous Marine Hamlet, mais il y a des députés courageux dans tous les groupes politiques sur ce sujet. Ça reste un sujet qui était même pas au centre de la dernière présidentielle. Marine Le Pen avait essayé de le mettre au centre de la présidentielle. J'étais bien placé pour le savoir. On n'avait pas réussi à intéresser la classe politique sur ce sujet. Ça devrait être une priorité et ça devrait transcender les clivages partisans.
Jean-Philippe Tanguy, on en vient donc à cette visite d'État et ses conséquences. Je le disais, Donald Trump reçu en grande pompe par Xi Jinping, le président chinois. Ces déclarations d'intention ce matin, on les a entendues. La volonté de Pékin d'un cessez-le-feu durable entre l'Iran et les États-Unis et la réouverture, dès que possible, du détroit d'Ormuz. On parle du détroit d'Ormuz et ses conséquences économiques en chaîne, en cascade, en Europe et plus précisément sur notre territoire. Des prix à la pompe qui flambent pour le consommateur, et un gouvernement qui a promis un nouveau paquet d'aide ciblé, mais toujours pas annoncé. J'ai envie de vous demander ce matin, est-ce que vous pensez finalement, au vu de ces déclarations, que le gouvernement parie peut-être sur une désescalade, suite notamment à cette venue du président américain, pour peut-être déclencher ou pas ces nouvelles aides?
Moi je pense depuis le début que ce gouvernement ne cherche qu'à gagner du temps, quelques jours par-ci, quelques semaines par-là, pour ne pas prendre les mesures nécessaires, la baisse massive des taxes qu'ont fait tous les gouvernements européens autour de nous.
Et certains sont revenus dessus, mais là il ne s'agit pas de baisser des taxes, mais de nouvelles aides possibles. cette semaine, elle devait être annoncée, il n'en a rien été.
Oui, mais ils ont
sans doute la semaine prochaine.
Ils ont utilisé la crise du virus qui n'a rien à voir pour gagner une fois plus une semaine. Ils se moquent des Français. Voilà, ils prennent les Français pour des imbéciles qu'ils ne sont pas, en utilisant la montre, en jouant la montre, en faisant croire qu'une semaine de passé, c'est toujours ça de prix, pour ne pas prendre les mesures nécessaires. Vous avez dit, oui, c'est pas la baisse de taxes, mais c'est la seule solution pour protéger le pouvoir d'achat des Français, pour permettre aux travailleurs de gagner quelque chose quand ils vont travailler, aux entrepreneurs.
Mais vous pensez vraiment juste
d'éviter la récession?
Mais je rebondis
on
juste
a droit
que
dans la récession, si on ne prend pas ces mesures de baisse de taxes, paradoxalement, ça coûtera plus cher aux finances publiques d'aller vers la récession, d'aller dans la récession par irresponsabilité, que de faire ces baisses de taxes.
On va revenir sur cette proposition que vous portez en boucle. Pour le coup, on vous reconnaît cette forme de cohérence-là. Juste, je rebondis, vous pensez vraiment que le gouvernement a utilisé l'argument de l'antivirus pour ne pas procéder à ces nouvelles annonces ou ne pas aller plus loin?
Oui, je le crois. C'est pas je le crois, je le constate. Mais c'est avec un cynisme. Vous savez, ce gouvernement aussi utilise la bonne foi de ses adversaires, la bonne foi du Rassemblement National, mais contre nous, en disant bon, on va pas dénoncer leur magouille. Mais ils sont tellement cyniques, c'est absolument épouvantable. L'ambiance d'ailleurs qui règne à l'Assemblée Nationale est très délétère de ce point de vue, parce que les questions au gouvernement, c'est plus des questions au gouvernement, c'est les séances de mensonges du gouvernement. Mmh. C'est-à-dire que nous savons et nous allons en séance en sachant qu'ils vont nous mentir.
Mais vous
on
pouvez
se demande
entendre
pas comment ils vont répondre, on se demande comment ils vont mentir.
Mais vous pouvez entendre, encore une fois, que ces propos que vous tenez, comme d'ailleurs votre collègue Laurent Jacobelli, ont pu choquer quand même. Il y a une Française et une femme en réanimation. Le sujet était examiné de près, et d'ailleurs il continue de l'être. Considérer que cette excuse de l'antivirus a été prise pour ne pas avancer sur les aides sont des accusations graves quand même.
Ah mais c'est un constat, c'est pas une accusation, c'est devant nous, on le voit devant nous. Mmh. Pour s'occuper de notre compatriote et de prendre les mesures nécessaires, c'est le ministère de la Santé, c'est Madame Rist. Quel est le rapport avec les aides au carburant qui sont dirigées par Bercy? Ça n'a rien à voir, c'est eux qui ont tout mélangé, qui ont, ils appellent ça des séquences. Mmh. Je veux dire, c'est face à nous, on les connaît, nous les fréquentons, les socialo-macronistes depuis maintenant presque 15 ans. C'est leur façon malheureusement de travailler.
Et pour bien les connaître, comme vous le dites, cette proposition de baisser la TVA à 5,5, vous savez aussi que c'est une fin de non-recevoir, que ça n'aura pas lieu. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de changer de demande? Parce qu'ils le disent, c'est un coût trop important sur les finances publiques. Est-ce que le Rassemblement National n'a pas peut-être une autre proposition à formuler?
Mais on a fait d'autres propositions. On a proposé au moins de baisser les hausses de taxes que M. Macron a imposées avec Édouard Philippe, à 16 centimes sur l'assise sur les carburants, en plus de la TVA. Mais enfin, s'ils font que l'assise sur les carburants, écoutez, nous on prendra ce qu'il y a à prendre. On a proposé, c'est nous qui l'avons dénoncé, votre serviteur en particulier, la hausse des certificats d'économie d'énergie.
Les fameux C2E. Et Roland Lescure, le ministre de l'économie, oui, dans l'hémicycle, vous en parliez, vous a vertement répondu aussi.
Il a vertement menti, disant que ça n'avait pas de conséquences sur le prix, que ça servait à financer autre chose, que finalement
la transition énergétique, ça aussi, ça reste une priorité.
Non mais c'est une espèce de mafia, les certificats d'économie d'énergie. Il y a un rapport de la Cour des comptes à la demande du Rassemblement National qui a été fait, qui est extrêmement dur, qui explique que l'essentiel des moyens des certificats d'économie d'énergie sont détournés et inefficaces, et M. Lescure ne veut pas y répondre parce qu'il entretient cette mafia, et de toute façon la Macronie d'une manière générale a un lien extrêmement préoccupant avec un certain nombre d'organisations autour de l'État qui se partagent des prébendes, des quasi-taxes, des monopoles publics qui ont été privatisés. Bon, tout ce petit monde gagne beaucoup d'argent sur le dos des Français.
Jean-Philippe Tanguy,
j'ai dénoncé sur le stock des carburants, 600 millions d'euros payés par les Français chaque année.
Ça, vous dénoncez effectivement, oui, très régulièrement. Est-ce que vous dénoncez aussi l'attitude de Total, de son patron, Patrick Pouyanné? Vous serez à l'audition du patron de Total Énergie mois de juin prochain, le 17 juin, en tant que membre de la commission des finances.
Bien sûr.
Ça a une utilité, selon vous?
Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, on sait assez bien ce qui se passe sur le pétrole. Le secteur du pétrole est très surveillé, il est encadré. Tous les prix sont sur le site de Bercy. Les marges à la fois du transport, de la distribution, du raffinage sous son Bercy. Donc c'est un business, c'est un métier que l'on connaît assez bien. Mais en fait, comment dire, brandir Total, parler de M. Pouyanné toute la journée, c'est une nouvelle raison pour le gouvernement. Ils veulent parler de taxes sur les super profits, de ne pas parler des super taxes. Voilà. Bon, les taxes sur le carburant, c'est 50 à 60% du prix du carburant. Donc M. Pouyanné,
une taxe sur les super profits sur les super profits Total, vous dites pourquoi pas, ça peut être une solution. Mais, aussi,
il y a déjà une taxe aujourd'hui, il y a un super IS, oui, qui est déjà prévu, qui est encore prévu d'ailleurs sans doute pour l'année prochaine. Donc, vous voyez les socialistes par exemple, parlez de cynisme, ils ont rien à envier aux macronistes. Vous savez très bien comment ça se passe une loi. Vous savez très bien que même si on votait une loi sur les super profits, le Sénat la bloquerait, ça mettrait presque un an. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Eh ben les profits, vous pouvez plus les imposer. Donc les socialistes ont autant menti que les macronistes parce qu'ils savent que cette proposition ne peut pas fonctionner. Ce qui pourrait fonctionner, c'est faire un projet de loi de finances rectificative dès aujourd'hui. Pour baisser les taxes sur le carburant.
Mais là, voyeur, vous savez
et
aussi
évidemment
que
évidemment rééquilibrer peut-être avec d'autres dispositifs fiscaux.
Ça ne paraît pas être la perspective. Jean-Philippe Tanguy, à ce moment de l'interview, j'ai envie de vous demander sur le ton de la boutade, est-ce que vous souhaitez bonne chance à Kylian Mbappé pour la Coupe du Monde qui s'annonce au aux États-Unis prochainement.
Bah, bien sûr, il faut que la France gagne avant tout.
Il faut que la France gagne et que Kylian Mbappé soit un bon capitaine. Je vous pose la question évidemment suite à ses propos concernant votre parti. Il le dit, moi ça me touche. Je sais que ce que ça signifie l'arrivée au pouvoir du RN, quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays. Marina Ferrari, la ministre des Sports, a dit que les sportifs sont des citoyens comme les autres. Est-ce qu'elle aurait dû recadrer le joueur de l'équipe de France ou pas du tout?
Non mais ils sont des citoyens comme les autres et ils sont parfois désinformés comme les autres. Donc moi je me souviens d'une chanson de Diams quand j'étais jeune, puisqu'on parlait de notre jeunesse, où Diams disait qu'elle ne pouvait pas être amie avec Marine Le Pen, et Marine Le Pen lui avait courageusement répondu disant mais venez me voir, venez débattre avec nous.
Elle lui avait même dédié une chanson. Hein.
Oui justement, c'était à l'occasion de ces chansons, et au lieu de raconter des bêtises dans une chanson, on pourra échanger, vous verrez que je ne suis pas la personne qui a été décrite par nos adversaires politiques. Donc je pense que Monsieur Mbappé il devrait plutôt chercher à rencontrer des personnalités du Rassemblement National, et on lui montrera qu'il a été désinformé, mal informé, et qu'il est sans doute manipulé par des gens qui ne le veulent pas du bien.
Une dernière question, Gérald Darmanin, le ministre de le garde des Sceaux, a dit il y a quelques jours qu'il pensait que le second tour de la présidentielle, ce sera entre Madame Le Pen ou Monsieur Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez le même diagnostic?
C'est les Français qui décideront. Vous savez, la campagne est longue. Monsieur Darmanin ferait mieux de s'occuper de la justice et de l'état de l'appareil judiciaire. Moi, l'administration pénitentiaire à Amiens, qui a été en grève il y a quelques semaines, dans des situations extrêmement difficiles, un dénuement matériel, des
c'était
heures.
C'était pas le choix de Marine Le Pen, hein, Monsieur Mélenchon, au second tour. Elle aurait préféré Édouard Philippe. Non,
mais, c'est-à-dire que nous considérons que c'est les macronistes qui ont gouverné, qui ont fait du mal à la France, et il faut avoir une explication.
Il faut s'y confronter.
Avec eux, il faut s'y confronter pour que ce soit un choix, pas de rejet, parce que il y a une majorité aujourd'hui pour rejeter M. Mélenchon, ses excès, ses propositions qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qu'il faut une adhésion sur notre projet. Et qu'il y aura plus d'adhésion sur le projet porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella s'il y a un débat sérieux contre Édouard Philippe plutôt qu'un débat dans la caricature avec M. Mélenchon.
Jean-Philippe Tanguy, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce vendredi. Il est 8h47 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV.
C'était le face-à-face. Merci Marie Chantret. Dans un instant, la semaine face à Canteloup et Nicolas Canteloup qui revient notamment sur la crainte d'une épidémie d'antivirus.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, le professeur Gilles Pielloux était l'invité du face-à-face. Il est resté face à Canteloup.
Rebonjour professeur.
Rebonjour.
Eh bien, figurez-vous que le président Emmanuel Macron voulait réagir.
Je suis malade, complètement malade.
Non mais enfin, tout de même, enfin, on s'adresse au président, pas au chanteur. On sait bien désormais que vous êtes également chanteur, Emmanuel Macron. Vous êtes en Afrique, vous vous êtes longuement entretenu avec Sébastien Lecornu. Qu'avez-vous dit au Premier ministre?
Si on devait mourir demain.
Non, monsieur le président, sérieusement.
Voilà, c'est fini. Non. Je vais vous confiner à partir de midi.
Non. Monsieur le Président, on est à l'antenne.
Mais oui, mais pardon, je suis un an de la quille, voilà, je peux me détendre un peu, voilà. En plus, je suis en Afrique, je risque rien, donc je m'amuse, voilà. Par contre, j'aimerais en profiter, puisque vous êtes avec le professeur Piu-Piu.
Non, c'est Pialou.
Oh oui, ah, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Oui. Canteloup, Canteloup, Pialou.
Ouais. Voilà, je n'étais pas loin. Oui, non, le professeur Piu-Piu, c'est pour la grippe aviaire.
Oui.
Bref, j'ai détecté, je m'adresse à lui, et peut-être peut-il m'éclairer, j'ai détecté un syndrome qui m'inquiète un peu. Je vous explique. Depuis quoi? Une petite dizaine d'années, je sens autour de moi une sorte d'épidémie de mécontentement.
Ah oui.
Un peu partout en France, où que j'aille, je sens comme une gêne, une démangeaisons avec des sortes de clusters de casse-couilles.
Ah, des clusters de casse-couilles, monsieur le président, oui.
Mmh. De-ci, de-là, oui. Par-ci, par-là, mmh. celles et ceux.
Oui.
Pourtant, j'ai pris des mesures sanitaires drastiques. Mmh. J'ai changé 7 fois de Premier ministre. J'ai dissous l'Assemblée au gel hydroalcoolique oui. pour que les Français puissent changer leurs députés avec des parlementaires tout propres. Mmh. J'ai tout fait. J'ai organisé des JO, ça a été une réussite. Nous avons gagné, nous sommes champions du monde oui. en 2018. Enfin, ouais. Voilà, je ne sais plus quoi faire. Mmh. Hein. Mmh. Certains disent que ça viendrait de moi, que c'est moi qui serais porteur du virus. Oui. Mais enfin, pardon, mais je suis sûr que même quand je serai parti de l'Élysée, il y aura encore de la grogne et du goût mécontentement. Donc ça ne peut pas venir de moi.
Non.
Est-ce que j'ai une hypothèse? Je pose la question au professeur Piu Piu. Est-ce que ce ne serait pas plutôt les Français qui seraient porteurs du virus? Mais du coup, je vais quand même pas abattre tout le troupeau.
Ah non, merci beaucoup. D'ailleurs, le professeur Gilles Pialoux va étudier tout ça. Merci, monsieur le président. Le professeur Didier Raoult aussi voulait réagir. Ah. Oh mon Dieu.
En tant que sommité mondial de l'épidémiologie, je tiens à saluer Gilles Pialoux, même si à l'époque de la Covid, il m'a chié dans les bottes. Enfin, dans les Santiago.
Oui, c'est ça.
En tant que professeur de l'unité Saint-Algue et Jean-Louis David de l'hôpital Harley-Davidson, cette épidémie qui se profile, c'est inespéré.
Ah oui.
Je vais pouvoir enfin refaire un peu de télé, un peu de radio pour expliquer que j'ai, moi seul, la solution. Quelle est-elle? Toutes les études du laboratoire de mon garage le montrent, confirmées par celle de ma buanderie, pour éradiquer définitivement l'antivirus qui est propagé par des rongeurs, il suffit d'associer en bithérapie de la chloroquine avec la morora.
Ah oui, ah bah c'est vrai, c'est efficace ça, dis donc.
Les chiffres sont implacables. Ah oui. Parmi tous mes patients décédés, aucun n'est mort à cause d'antivirus. Donc ça marche dans 100% des cas.
Voilà. Quelle efficacité, merci.
Prends-en la graine, Pichou.
Professeur Didier Raoult. Emmanuel Macron mène actuellement une tournée de 5 jours en Afrique. Il est aujourd'hui au Kenya. Bonjour, monsieur le président.
Ainsi, bon engage,
oui, tu dis que ça, bon, il était sud-africain, pas kényan quand même, monsieur le président.
Oui, mais écoutez, vous en connaissez beaucoup, vous, des tubes qui viennent du Kenya. Moi j'écoute RMC Gold tous les jours, il y en a pas.
Oui, c'est bon, enfin, quoi qu'il en soit, vous avez débuté ce déplacement par une visite de 2 jours en Égypte, hein.
Barque sur les billes, barque sur les billes, barracuda. Oui, mais j'ai plus rien à perdre.
Vous savez,
oui, j'étais en Égypte. Oui, l'Égypte, nous avons beaucoup échangé avec le, nous devenons sérieux avec le président égyptien, le maréchal Sissi, avec qui je suis très complémentaire, puisque je suis plutôt, moi, le président non.
Ah oui.
Vous allez intervenir dans l'étroit d'Hormuz? Non. Vous allez déminer la mer d'Oman? Non. Vous voulez baisser les taxes sur l'essence? Non.
Et donc vous terminez.
Oui, j'explique les vannes.
Oui, j'ai compris.
Je les illustre. C'est une bande dessinée. Mais...
Vous terminerez demain, président, votre tournée à Addis Abeba.
L'Éthiopie meurt peu à peu.
Sérieusement, monsieur le président, pourquoi ces différentes visites donc?
Alors écoutez, après l'Arménie, après l'Andorre, je continue à nouer des alliances avec de grandes puissances pour pouvoir peser face à l'Amérique de Trump, à la Chine de Xi Jinping et à la Russie de Poutine. Et là, je peux vous dire qu'on a un axe. Andorre, France, Arménie, Kenya, qui commence à avoir de la gueule. Si en plus, Madame de Malherbe, demain, j'arrive à convaincre l'Éthiopie, le Liechtenstein ainsi que les îles Marshall et les îles Truchot, la France va vraiment commencer à peser dans le game.
Pour faire un point sur le foyer d'antivirus, à bord d'un bateau de croisière, on retrouve tout de suite Denis Brognard. Bonjour Denis.
Bonjour, c'est Denis Brognard. Bienvenue dans Koh-Lanta-virus. Les aventuriers ont débarqué sur l'île de Tenerife. Ils sont désormais répartis en 3 équipes. Les rouges, à plus de 42 fièvres, constituent l'équipe des balados.
Oui.
De l'autre côté de l'île, les verts, de peur, redoutent d'attraper le virus. Ce sont les flippos.
Oui.
Et enfin, l'équipe des blancs, reconnaissable à la couleur de leur blouse, les médicos.
Les médicos.
Un seul but pour ces 3 équipes, résister au virus pour éviter de rejoindre la tribu des muertos. Pour cela, mes aventuriers, vous devrez confectionner des masques FFP2.
en feuilles de bananier et fabriquer du gel hydroalcoolique à base d'eau de mer, de verre de cocotier et de sauterelle prémâchée. Sans oublier bien sûr l'épreuve des poteaux. 45 jours de confinement sans voir vos amis. Mais attention, il vous faudra également éviter les rats, les souris, les postillons, ainsi que Francis Allan, qui voudra vous faire croire que tout ceci n'est qu'un complot du KGB chinois-israélien.
Oh mon Dieu.
Mais la sentence est irrévocable. À l'issue de l'épreuve d'inconfort, à bord du bateau Hondius, trois candidats ont déjà dû quitter l'aventure les pieds devant. Parviendrez-vous à échapper à l'antivirus grâce au total d'immunité? Une chose est sûre, à la fin, il n'en restera qu'un. Ou pas.
Merci Nicolas, on retrouve Face à Canteloup absolument quand on le veut en podcast et puis lundi matin sur RMC. Dans un instant les GG avec Alain Marchal, c'est quoi le programme Alain ?
Eh bien dans les GG, dans les grandes gueules, on reviendra sur le concours de l'Eurovision, c'est ce soir. Alors c'est pas tellement les chances de la France qui nous intéressent, quoique, mais c'est surtout la présence d'Israël. Bon nombre de pays appellent au boycott, même des stars internationales disent Israël n'avait pas sa place à l'Eurovision. Vous venez en parler avec nous au 32-16 et puis on regardera aussi les cas contacts, vous savez, l'antivirus, apparemment, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Alors, est-ce que le gouvernement a bien géré? C'est une chose, mais surtout, avec le retour de l'antivirus, on a eu le retour des complotistes. Eh oui, ils sont là, et ça nous fatigue. Et c'est au 32-16 que vous venez en parler avec les GG.